France Musique.
On va évoquer quelqu'un que vous aimiez bien, dont vous aimiez le cinéma. Vous nous direz pourquoi, Jean-Claude Malgoire, c'est Ettore Scola. Bonjour Xavier Leherpeur.
Bonjour Vincent Jeuss.
On pensait parler de cinéma et de cinéaste vivant aujourd'hui, mais depuis le début janvier, comme on dit dans notre jargon journalistique, on enterre malheureusement beaucoup et quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, on enterre un grand cinéaste qui a regardé à la fois la société italienne, mais toutes les formes de société, la société politique et la société familiale. C'était qui pour vous, Ettore Scola ?
Mais vous avez raison de dire qu'on enterre peut-être un cinéaste qui est encore vivant, parce que quand on pense à Ettore Scola, alors c'est très personnel, là c'est vraiment la première personne que je vais parler pendant un instant, mais je n'ai des souvenirs, c'est un cinéaste que j'aimais beaucoup, j'ai les souvenirs très précis des moments où j'ai découvert ses films, c'est-à-dire que je me vois dans la salle, c'est-à-dire qu'il y a une réaction particulière, c'est au-delà du film, il y a une symbiose, c'est comme avec Jacques Demy, je me revois découvrant à 11 ans la journée particulière, je me revois voyant la terrasse, donc c'est quand on a un cinéaste qui à ce point n'est pas près de vous, parce que les sujets qu'il évidemment abordait à cette époque-là ne concernait pas le jeune garçon que j'étais, mais avait une façon de regarder les comédiens, de les diriger, cette petite musique, cette manière comme ça de regarder le monde. Voilà, je me disais, j'ai raison, entre guillemets, d'aimer le cinéma, parce que le cinéma me parle de choses dont on ne me parlera pas chez moi, dont on ne me parlera pas autour de moi, mais qui m'ouvre sur le monde, et vraiment, pour moi, Ettore Scola.
Voilà, c'était vraiment un artiste, bon, alors c'est le cas de beaucoup d'artistes, mais qui regardait la société dans laquelle il vivait. C'est un homme, d'ailleurs, engagé à gauche.
Complètement, dès le départ, d'ailleurs, puisque il arrive à Rome, il va commencer des études de droit sans jamais y croire, et il est très vite engagé par une revue satirique qui s'appelle Marco Aurelio, qui a également engagé Federico Fellini à l'époque, dont pas les pires, quand même. Et je pense que, alors, c'est toujours facile, sur un tout petit point biographique comme ça, d'imaginer que ça a eu une influence réelle. Mais ce goût du dessin, du sketch, de la manière de faire exister comme ça un personnage sans le caricaturer nécessairement, mais en trouvant ses traits, en trouvant la manière dont il existe, je pense que ça a vraiment aussi construit son cinéma. Il a commencé par être scénariste dans les années 50, et il a scénarisé entre autres un film que je n'ai jamais vu, mais que je rêverais de voir, qui s'appelle « Deux nuits avec Cléopâtre », Cléopâtre étant interprété par Sophia Loren, donc on imagine le nanar gouléant avec Sophia Loren en Cléopâtre, n'est-ce pas ? Et il avait également scénarisé Toto sur la Lune, que là aussi on a un peu oublié dans la grande veine des films comiques de Toto. Et puis très rapidement, il a rencontré Dino Rizzi, ensemble ils ont écrit Le Fanfaron, par exemple. Et puis il est passé enfin à la mise en scène.
Et plutôt bien passé, parce que parmi les 40 films de Scola, on retient un certain nombre de chefs-d'œuvre, hein, Xavier.
Ah ben, un grand nombre de chefs-d'œuvre. J'ai trouvé une citation de lui que je trouve extrêmement simple, extrêmement juste et qui résume très bien son cinéma. Il disait « On fait toujours à peu près le même film. J'ai toujours été préoccupé par une typologie de l'isolement, de la différence sociale. Je ne pars pas d'un sujet, mais d'une idée que je transpose dans le grotesque et l'humour, car je trouve que c'est une façon noble et tragique de représenter les problèmes contemporains. Il aurait pu être baroque dans le sens de la dissonance et de l'asymétrie, justement, parce qu'il a toujours cherché ce qui n'était pas asymétrique, ce qui n'était pas asymétrique, ce qui dissonnait un tout petit peu. Et c'est vrai que son cinéma, c'est un cinéma effectivement de l'isolement. On se souvient d'Affreux, ça les méchants, oui. Par exemple.
Dans un bidonville de Rome.
Dans un bidonville, hein. Voilà, l'isolement social, l'isolement politique, l'isolement social. Les héros de la terrasse, par exemple, sont des personnages terriblement isolés dans leur idéologie. Ils ont cru à la gauche, ils en reviennent, ils sont sur leur terrasse, métaphore sublime de l'isolement. Ils vivent en vase clos et en même temps, effectivement, ils sont en train de faire le bilan d'une époque qui est passée et qui est passée sans eux. Et puis il y avait l'isolement aussi des personnages, par exemple La Nuit de Varennes, cette merveilleuse suite de Marie-Antoinette où elle va croiser un Casanova vieillissant, mais un Casanova qui a une philosophie, qui a un regard sur le monde, cette rencontre extraordinaire de Casanova avec Brialy qui joue un coiffeur homosexuel et Brialy qui lui dit « Oh, si j'étais plus jeune !» Et Casanova lui dit « Mais pourquoi pas, j'aurais adoré aussi avoir cette expérience-là » Voilà, il avait cette façon extraordinaire de montrer comment on était peut-être parfois le responsable, l'outil de notre isolement, mais qu'en même temps, l'isolement, ben, ça faisait partie du monde, ça faisait partie de notre rapport à la société.
Vous savez à quel film je pense, moi, qui m'a marqué, c'est Une journée particulière.
Ben, j'allais finir évidemment sur Une journée particulière.
Sophia Loren, Mastroianni.
Voilà,
deux isolements de marginaux dans cette société fasciste.
Complètement, absolument. Et un personnage, rappelez-vous quand même que quand il tourne Une journée particulière en 77, le personnage de l'homosexuel, c'est une caricature absolue. C'est quelque chose qui doit être exacerbé, qui doit être.
Chez nous, c'est la cage aux folles.
C'est la cage aux folles. Et ce personnage personnage magnifique, mastroianique, et la virilité, l'hétérosexualité incarnée, il est absolument bouleversant. Et puis, il s'est intéressé à plein de formes. Le bal, rappelons-nous, son adaptation du spectacle de Jean-Claude Banchenat, qui a été un gros succès en France. Et puis, dernière chose, parce que je crois que je suis un tout petit peu long quand même, terminé par son goût pour le documentaire, qui a traversé et qui a vraiment perduré tout au long de sa carrière. Dans les années 70, il travaille pour le Parti communiste italien, il va filmer les grandes réunions le 1er mai, les grèves dans l'usine Fiat. Et un de ses tout derniers films, l'avant-dernier d'ailleurs, c'était Gente di Roma, qui était un documentaire qu'il a réalisé en 2003, qui était absolument magnifique, parce qu'on comprenait que jusqu'au bout, son acuité, son regard sur le monde, et cette façon d'aller chercher des gens seuls, mais dont la solitude peut être agrégée à d'autres, allait peut-être constituer un mouvement comme ça, une forme de résurgence, c'était un documentaire absolument magnifique, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas.
Voilà, donc on est des spectateurs en deuil, mais on se réjouit aussi de savoir que son cinéma existe et qu'il est toujours à notre disposition.
Oui, et puis il y a des films un peu rares dont on espère qu'un jour on les découvrira, une rétrospective, une intégrale, ce serait bien.
C'était Le Regard de Xavier Le Harper sur Ettore Scola.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.